Délivrez-vous, une émission de Claudine Buga, pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
Bonjour à tous. Eh bien, je suis heureuse de vous retrouver pour Délivrez-vous, pour ces deux ailes, pour, je dirais, trois livres pour un auteur prolixe qui nous raconte toujours des choses merveilleuses d'un pays lointain et en même temps si proche de nous. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il écrit parce que, au travers de ses romans, c'est aussi une grande page d'histoire à chaque fois qu'il nous compte. Et puis également, vous verrez les aventures d'un célèbre inspecteur et puis un livre sur les femmes qui, moi, m'a passionnée parce que, il nous raconte ces femmes de puissance, que ces femmes qui sont mises au devant de la scène, et ça me plaît bien. Non pas que je sois féministe, mais je trouve que cela fait du bien un petit peu à notre ego féminin. Alors pour nous parler de tout cela avec sa triple actualité, j'ai de nouveau le plaisir, l'honneur et l'avantage d'accueillir monsieur Christian Jacques. Bonjour Christian Jacques.
Bonjour madame.
Merci d'avoir accepté de nouveau mon invitation dans Délivrez-vous pour ces deux ailes. Alors je disais une triple actualité. Alors on va commencer par ce que je qualifierais de pavé. C'est un gros livre sur Pharaon, sur Thoutmôsis III. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, bien évidemment, on vous connaît depuis toutes ces années en France et partout ailleurs pour vos histoires sur l'Égypte, vos romans et romans, mais où l'histoire avec un grand H a toujours énormément de place. Là, donc, c'est l'histoire de Thoutmôsis que vous nous contez, Thoutmôsis III. Il a été trop jeune d'abord pour régner, et donc c'est la reine pharaon, dirais-je, Hatshepsut, qui a régné pour lui. Pourquoi s'être attaché à ce pharaon qui, au préalable, ne semblait pas très sympathique, et finalement on se rend compte que c'était un homme complet et fort érudit?
Vous savez, il m'a toujours passionné et étonné dans la mesure où ce roi, en effet, avait été nommé par les dieux, en quelque sorte, pour remplir cette extrêmement lourde et difficile fonction. Mais lui, son intérêt dans la vie, ses passions, c'était en fait la recherche, l'écriture. Ce fut en effet un grand botaniste. Et il passait plutôt son temps dans les bibliothèques. Et bon, quand cette très célèbre Hatshepsut a été d'abord reine, puis pharaon complètement, ça ne l'a pas particulièrement impressionné. Et puis il est arrivé ce qui malheureusement arrive à tous les humains, c'est qu'Hatshepsut a quitté ce monde. Et tout à coup, le destin est venu frapper à sa porte, comme on dit, en lui rappelant que
il avait été
élu, hein, donc il devait régner.
Et oui.
Et ça commence très mal, oui. Puisque personne ne pense qu'il sera capable en fait de gouverner, et encore moins de se battre. Et là, et bien sûr, l'Égypte, vous savez, tout au long de son histoire, a fait l'objet de convoitises. Au fond, le Proche-Orient n'a pas beaucoup changé, et il y avait toute une série de populations qui deviendront les Palestiniens, les Turcs, les Hittites. Et il y a une grande coalition qui commence à se former et qui pense carrément envahir l'Égypte et s'emparer de ses trésors, surtout avec un jeune roi incompétent, incapable. Et puis ça ne va pas se passer comme ça du tout. C'est-à-dire que là, il va révéler en fait que les dieux ne s'étaient pas trompés et avaient nommé un être qui allait devenir l'un des plus grands pharaons d'Égypte, en fait.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un être érudit, hein, botaniste, écrivain, il adore les bibliothèques, et puis comme vous dites, tout ça, ça va lui tomber dessus. Ça a été un grand pharaon qui avait, je dirais, une haute idée du rôle de pharaon. Hein. Mon royaume est dans le monde. Tout tournait autour du pharaon, autour du rôle du pharaon. Sans le pharaon, point de salut, point de monde.
Oui, c'est exact. C'est tout à fait la pensée des anciens Égyptiens, avec cette particularité que le mot de pharaon, en fait, c'est lui qui l'a employé pour la première fois. Ils l'étaient tous, évidemment, avant. Mais c'est un titre qui s'est formalisé avec lui. Alors, en égyptien, on va faire deux secondes d'égyptien à la radio. Hein.
Oui.
Pharaon est un mot vraiment égyptien qui est formé de deux termes. Le mot « père » qui signifie la maison, la demeure, le temple, et « a » qui signifie « grand ». Donc, en réalité, Pharaon, c'est le grand temple, c'est la grande demeure où chaque Égyptien et chaque Égyptienne doivent trouver leur place. C'est donc quelque chose de profondément symbolique. Et en même temps, ce qu'on sait moins, c'est que ce titre de Pharaon recouvre à la fois l'homme et la femme. Car le roi doit impérativement avoir une grande épouse royale. Pharaon, c'est un couple. Et il aura la chance d'avoir une extraordinaire épouse, une très grande reine d'Égypte, qui malheureusement pour lui mourra avant lui. Ce sera d'ailleurs un choc très brutal. Il continuera à remplir sa fonction. Mais cette Satia, puisqu'on la connaît mal, elle s'appelait donc la fille de la lune, a été vraiment une très grande reine. Et ce couple a magnifié la fonction au maximum, c'est vrai.
Alors comment expliquez-vous malgré tout que, je dirais dans l'imagerie populaire, à moins vraiment de s'intéresser à l'Égypte, ce qui est le cas d'ailleurs, bon nombre d'émissions maintenant le font sur l'Égypte et les gens, les lecteurs, les auditeurs s'y intéressent, mais on le connaît moins que Ramsès ou Toutankhamon. Comment expliquez-vous cela malgré tout, alors que ça a été un grand pharaon et qu'il a fait de grandes choses pour son pays?
Oui, ben c'est un peu l'inégalité de l'histoire. Hein. Par exemple, on connaît bien le nom de Khéops à cause de sa pyramide, et pas du tout celui de Snéfrou qui lui en a construit au moins deux, sinon trois. Ramsès, c'est vrai que c'est la vedette des vedettes, grâce à Abou Simbel, grâce à Nefertari. Toutmosis, en fait, c'est son nom veut dire qu'il est celui qui est né du dieu Thoth. C'est le dieu de la connaissance, c'est le dieu des lettrés, c'est le dieu des savants. Et ça n'a jamais été un être très démonstratif, Toutmosis, en fait. C'est quelqu'un, on va dire, l'homme est discret.
L'homme est discret,
est un savant,
oui.
L'homme est un chercheur.
Plus intellectuel.
Oui. Certainement. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'il est très connu parce qu'il a fallu qu'il mène 17 campagnes militaires. On l'appelle parfois le Napoléon égyptien.
Tout à fait.
Il est surtout connu pour ça. Et c'est pas l'activité qui le passionnait le plus. Donc, il y a parfois des paradoxes comme ça très étonnants de l'histoire. Mais moi, j'ai toujours eu une très grande affection pour lui à cause peut-être de ce côté, effectivement, littéraire. Hein. C'est un collègue, on pourrait dire, entre guillemets.
C'est vrai.
Un collègue écrivain qui a écrit. Alors, sa tombe, et d'ailleurs, on parlait justement de ça, la tombe de Ramsès II, qui est malheureusement détruite, mais on sait à peu près ce qu'elle était. C'était une très grande tombe avec énormément de décors, avec énormément de couleurs. Celle de Toutmosis III est très discrète, c'est-à-dire qu'elle est très difficile d'accès dans la vallée des Rois, on a mis longtemps à la découvrir. Et en fait, quand vous rentrez dans cette tombe, eh bien, c'est un papyrus déroulé sur les murs avec de simples dessins. C'est donc une tombe très simple, mais ces dessins représentent en fait le livre de la chambre cachée qu'il a conçu, qu'il a écrit. Et je soupçonne fortement qu'il ait dessiné d'ailleurs lui-même ces étapes, en fait, de la résurrection.
Oui.
Mais c'est très simple et très dépouillé à son image.
Alors, dans votre livre, un bon nombre de personnages, bien évidemment, qui encadrent Toutmosis. Ce qui est formidablement bien décrit, c'est, je dirais, le rapport au quotidien, le rapport aux autres. On a l'impression que l'on est, dans les autres livres aussi, mais là, on est complètement immergé parce que, effectivement, on sent cet attachement, cette faiblesse, dirais-je, de Christian Jacques pour Toutmosis. Mais là, c'est vraiment le quotidien, pas à page, mot après mot. On se sent vraiment intégré. Et puis, moi, je l'ai trouvé aussi terriblement moderne, de par les difficultés qu'il rencontre, parce que, comme vous dites, le Moyen-Orient, n'a pas tellement changé. Au travers des siècles. Mais moi, j'ai trouvé que c'était aussi un pharaon terriblement moderne et contemporain.
Oui, vous savez, cette Égypte, c'est bizarre parce que on me dit bien sûr que j'écris des romans historiques et moi, j'ai l'impression d'écrire des romans contemporains. Parce que cette Égypte, d'abord, c'est notre mère, hein, c'est notre mère spirituelle, c'est notre véritable ancêtre. N'oublions pas que les anciens Égyptiens, ça vient d'être prouvé, étaient des Caucasiens. C'est comme nous, voilà.
Tout à fait.
Il ne faut pas du tout confondre, si vous voyez, au 6e siècle après Jésus-Christ a eu lieu l'invasion arabe et musulmane, qui a complètement changé le pays, bien entendu. Mais auparavant, vous aviez des gens qui l'Égypte est une grande civilisation de la vigne, ils adoraient le vin, ils ont fait un nombre d'inventions incroyables, ils avaient beaucoup de musique, ils avaient beaucoup d'écrits. Effectivement, il y a une modernité, je dirais, presque naturelle de l'Égypte. Et c'est très intéressant de les voir vivre, en effet, au quotidien, avec notamment un personnage, je pense que vous l'aimez comme beaucoup de mes lecteurs qui m'en parlent, qui est le vieux.
Et oui, le vieux, qui est toujours là, qui est toujours là. C'est le vieux sage.
Ben, c'est l'homme de base.
C'est l'homme de...
C'est l'homme du quotidien, ben, qui voit vivre, les critiquer, parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde était à plat ventre devant devant Pharaon.
Non, mais c'est bien qu'il y ait une opposition. C'est très bien qu'il y ait une opposition. Il faut de toute façon.
Mais bien sûr, parce que ça obligeait... Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un texte par rapport justement à l'institution pharaonique, qui a duré 3500 ans quand même, hein. C'est pas mal comme institution.
C'est pas mal.
C'est qu'on ne peut pas gouverner un pays si on n'a pas l'amour du peuple.
L'amour du peuple, oui, bien sûr. Voilà. C'est vrai. Alors, moi, en lisant le livre, je me suis dit aussi, malgré tout, que le visage de l'Égypte qui a suivi Thoutmôsis et peut-être aujourd'hui de tout ce passé culturel n'aurait peut-être pas le même visage, n'aurait peut-être pas la même histoire avec sans Thoutmôsis et sans son histoire et sans ses combats aussi.
Ah, je crois que vous avez complètement raison. On a été un véritable nœud historique. Il est certain que si la grande coalition avait réussi à envahir l'Égypte donc vers 1500 avant Jésus-Christ, on va dire. Oui. Ah ben alors là, tout changeait, parce que c'était une autre forme de civilisation, c'était une autre forme de pensée, c'était une autre forme de quotidienneté. Il a été d'un courage absolument remarquable. Et là, il y a cette histoire, la fameuse bataille de Megiddo, où ses généraux lui disent, bon ben voilà, il y a une sorte de défilé très étroit. On est en Syrie, si vous voulez, on est en pleine guerre de Syrie, vous vous rendez compte, c'est effectivement d'une modernité
c'est
tout
incroyable,
à fait étonnante.
J'ai été très étonné,
disent, voilà, il faut surtout pas passer par la voie du milieu dans cette gorge, parce que on va être attaqué, on va être détruit, on est obligé de passer en file indienne. Mm-hmm. Et alors là, le jeune Thoutmôsis, qui n'a jamais conduit une armée de sa vie, dit on passera ni à gauche ni à droite, on passera au milieu. Et là, les généraux sont complètement atterrés, disent voilà, c'est un fou furieux, on a perdu d'avance. Et il prend la bonne voie parce que les ennemis les attendaient précisément à gauche et à droite, mais pas au milieu. Voilà du Thoutmôsis, la prise de décision, l'intuition, le courage. Et en effet, il va réussir, disons, à gagner la première guerre de Syrie, en quelque sorte, et à pacifier la région, parce que ça n'a pas été simple non plus. Ça n'a pas été simple non plus. Et grâce à lui, en effet, on a vécu quelques décennies de paix et de tranquillité dans cette région.
Alors qu'il ne s'apprêtait pas du tout à combattre. Hein. Lui, il voulait qu'on le laisse dans sa bibliothèque avec ses plantes. Finalement, il n'était pas préparé à ça.
Pas du tout. Et alors, ce qui est tout à fait symptomatique, c'est qu'au cours de ses expéditions, il dessinait, donc, et alors, il recherchait toujours des plantes qu'il ne connaissait pas. En tant que botaniste, il les a évidemment dessinées, répertoriées. Et vous avez encore un endroit dans l'immense temple de Karnak qu'on appelle le jardin botanique, qui a été construit par Thoutmôsis III. Et vous voyez représenter des plantes rares, des animaux. Il a fait en quelque sorte, il a immortalisé dans la pierre ses découvertes et ses recherches.
Oui, donc c'est bien, il y a des traces encore de ce qu'il a fait et certainement que les générations qui ont suivi se sont peut-être servies justement de ces découvertes, de ces créations, de ce qu'il a fait.
Ah ben oui, parce que Thoutmôsis III est apparu à ses successeurs comme quelqu'un qui était à la fois donc un lettré, un savant et qui faisait parfaitement le pont entre tout le passé de l'Égypte. Il s'est beaucoup intéressé par exemple au texte des pyramides. Il avait une grande vénération pour ses lointains ancêtres qui avaient édifié ces monuments-là. Et en même temps, il a créé un État extrêmement moderne. L'armée a été très, très récompensée. Les dignitaires ont bien travaillé. Il a mis une économie... on a l'air de marcher aussi, pratiquement au point, puisqu'il a remplacé les conflits par des relations commerciales entre l'Égypte, le Liban, la Syrie. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important dans l'histoire d'Égypte.
Oui. Eh bien, écoutez, ce qui va être très important, je l'espère, c'est cette petite pause musicale que nous allons faire et nous nous retrouvons tout de suite après. serons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Monsieur Christian Jacques. Alors nous venons de parler du très beau livre Pharaon aux éditions Ixo. Alors nous allons rester en Égypte pour parler d'un autre livre. C'est Les femmes qui ont fait l'Égypte, toujours aux éditions Ixo. Alors Champollion disait que l'on pouvait juger une civilisation à la place qu'elle laissait aux femmes. Eh bien moi je trouve qu'il a formidablement raison, parce que dans votre livre, effectivement, nous allons parler de ces femmes de pouvoir qui ont fait l'Égypte, d'Isis à Cléopâtre en passant par Hatshepsut, les plus connues et bien d'autres. Et finalement on se rend compte qu'elles avaient des places formidables de chefs de parti, de grands écrivains, de maîtresses d'ordre et tant d'autres, et de paysannes aussi, mais elles étaient toujours sur le devant de la scène, et pas de société sans ces femmes de puissance en Égypte. Je parle de l'Égypte antique, bien évidemment.
Ah, écoutez, oui, c'est un sujet qui me fascine depuis très longtemps. Oui. J'avais déjà écrit un livre sur les femmes il y a plusieurs années. Oui. Et là, il y a eu beaucoup de découvertes à propos justement du rôle de la femme en Égypte ancienne. Et j'ai été frappé dès que j'ai commencé mes études d'égyptologie, il y a maintenant très très longtemps.
Oh, c'était hier.
On va dire avant-hier. et c'est très frappant parce que c'est tout à fait incroyable avec cette Égypte qui n'a pas fini de nous surprendre. C'est que dès la première dynastie, donc on est quand même très très loin dans le temps, hein, on est à presque 4000 ans d'aujourd'hui.
Avant Jésus-Christ.
Ça fait partie des actes fondateurs de l'Égypte, il y a une égalité entre l'homme et la femme.
Donc vous appelez la parité aujourd'hui, finalement.
Exactement, ce pourquoi nous essayons de lutter désespérément. Alors, ça se passe un peu mieux en Europe, mais ouais, il y a beaucoup de pays dans le monde où extrêmement loin.
Quoi qu'en Europe et en France, on est obligé de mettre des amendes quand il n'y a pas la parité dans certaines administrations. Avouez quand
Absolument.
Même. Quand même.
Voilà. ça surprendrait beaucoup les Égyptiennes.
Ah oui, je pense.
Mais alors, vous savez que ce qui s'est passé, c'est que quand les premiers Grecs sont arrivés en Égypte, ils ont été absolument scandalisés de voir des femmes, par exemple, marcher seules dans la rue, faire des affaires sur un marché, et parce que pour eux, le statut juridique de la femme est celle d'un mineur, c'est celle d'un enfant. Mmh. Et lorsque les Ptolémées ont pris le pouvoir et que, les pharaons n'étaient plus là, la première chose qu'ils ont faite, c'est de changer le statut juridique de la femme et de l'obliger à avoir un tuteur pour faire quelque affaire que ce soit. Donc la mentalité, vous vous rendez compte, était complètement différente, et on dit que l'histoire est toujours en progrès. Non, l'histoire est parfois régresse. Et là, avec l'arrivée des Grecs en Égypte, ça a été une véritable régression pour les femmes. Alors, il est certain qu'au début de la civilisation égyptienne, dès le début, nous en parlions à propos de Thoutmôsis, mais je crois que c'est vraiment très important, le concept de pharaon unit un roi et une grande épouse royale à parité. Mmh. Et lorsque, par exemple, le roi est obligé de partir en guerre, comme ça a été le cas pour Thoutmôsis III, eh bien c'est la reine
qui
prend la tête de l'État. Mmh. Et bien sûr, c'est tout de même extraordinaire, dans une très grande démocratie comme les États-Unis, il n'y a toujours pas eu de femme présidente des États-Unis.
Ça a failli.
Ça s'est pas fait. Et si je ne m'abuse, dans notre chère France, il n'y a pas eu non plus de présidente de la République.
Nous avons eu une femme Premier ministre.
Voilà.
Pas longtemps.
Pas longtemps, voilà. Là, en Égypte, ça ne posait aucun problème. Mmh. Il y a eu plusieurs femmes qui ont bien sûr dirigé l'État.
Bien sûr.
Vous avez eu des femmes Premier ministre, vous avez eu des femmes chefs des médecins, etc.
Oui, médecins, c'est incroyable, médecins. Voilà. Ouais. Mais même dans les classes plus modestes, parce qu'effectivement, on pourrait dire oui, parce que dans les classes plus aisées, c'est bien plus facile. Mais on s'aperçoit que dans les classes modestes également, eh bien, la femme a un rôle prédominant dans la maison. C'est pas le chef de famille, mais elle dirige, elle organise les choses. Elle a aussi un très grand pouvoir.
Alors, vous avez tout à fait raison, et c'est très intéressant de rappeler que l'expression maîtresse de maison est égyptienne. Elle a été inventée par les Égyptiens, et à la maison, Il y a d'ailleurs, vous savez, les vieux sages écrivaient des manuels un peu de morale, de sagesse, de conseils. Et alors, il y en a un qui s'appelle Annie. Il fait tout un manuel de sagesse et il demande surtout ne reproche à rien à ta femme à la maison. Elle fait déjà tout pour toi, elle s'occupe de plein de choses. Alors, tu te tais et tu remercies les dieux d'avoir donné une merveilleuse épouse.
C'est voilà. Très bien.
Ça, c'est vraiment la mentalité égyptienne que je trouve toujours très, très étonnante. Et Ptahotep, qui est mon sage de référence, où j'ai traduit ses maximes, qui ont été un best-seller tout au long de la civilisation égyptienne, et même après, parce que même les chrétiens ont adoré. Alors, Ptahotep, lui, c'est digne, c'est magnifique, c'est honore ton épouse, donne-lui les vêtements nécessaires, donne-lui le bonheur, parce qu'il dit une femme joyeuse est le plus grand cadeau que puisse te faire le ciel. Et je trouve ça très beau et c'est vrai. Hein.
C'est très très vrai et ces Égyptiens sont formidables. Et même Champollio, je disais tout à l'heure, qui dit qu'on juge une civilisation à l'intégration de ses femmes, eh bien moi je suis tout à fait d'accord. Alors une dernière chose sur ce livre, parce qu'on va en parler d'un troisième, évidemment, vous n'arrêtez pas d'écrire, donc bien évidemment nous derrière on doit travailler et travailler très vite. Une dernière chose, c'est qu'il y avait également des scribes. Alors les scribes, vous savez, dans mon imaginaire, moi le scribe comme beaucoup, c'est un vieux monsieur avec une grande barbe, un peu tremblotant, habillé d'une chemise de cotonnade blanche et qui grave sur le marbre. Et finalement, non, il y a aussi des femmes en Égypte.
Bien sûr, bien sûr. Et puis, je vous rassure tout de suite, il y avait aussi des jeunes scribes tout à fait dynamiques. Et en effet, on a des représentations alors très, 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 très tôt dès l'Ancien Empire, dès le temps des pyramides, de femmes qui, en effet, lisent, écrivent. D'ailleurs, la maison des livres était dirigée par une déesse qui s'appelait la déesse Séchat, qui portait sur sa tête une étoile à sept branches, qui était l'emblème, le symbole absolu de la connaissance à la fois céleste et terrestre, et qui est aussi, alors ça c'est très joli pour les Égyptiens, elle était la patronne de tous les scribes, avec le dieu Thoth bien sûr, et elle était aussi bien sûr la patronne des maquilleuses. Mm-hmm. Parce qu'au fond, pour les Égyptiens, quand une femme se maquille, elle écrit quelque chose sur son visage.
Ah, c'est donc, très joli ça c'est très joli.
Voilà, donc il y avait bien sûr, contrairement à ce que... Parfois ça me met en boule, comme on dit, de façon très simple. C'est quand je lis dans des ouvrages, paraît-il, très sérieux, on ne savait pas lire et écrire. Non, mais enfin, quand on a les monuments et les témoignages, si, les femmes savaient tout à fait lire et écrire. Oui.
Alors, ces femmes qui ont fait l'Égypte, de M. Christian Jacques, aux éditions XO. Alors, et ce droit dernier livre, alors, qui est bien différent, c'est les aventures de ce cher monsieur Higgins, que moi j'adore, et je sais que les auditeurs et auditrices aussi aiment beaucoup. Et alors là, le dernier s'appelle Le Marchand de Sable. Alors là, nous allons vraiment changer d'atmosphère et d'ambiance. Des réunions secrètes se passent dans un immeuble, sont assassinés un dignitaire chinois et un fonctionnaire africain, et l'assassin laisse ce petit mot, le marchand de sable est passé. Et alors là, tout commence pour l'inspecteur Higgins. Alors, c'est une nouvelle aventure. Vous l'aimez bien, ce monsieur Higgins. Hein, il est plein de mystères. Vous nous en racontez de belles avec lui. Hein.
Bah, écoutez, je vais vous faire une confidence. Je crois que c'est mon meilleur ami.
Je m'en doutais un petit peu. Mais avec le vieux. Le vieux et monsieur Higgins. Voilà, je pense.
Voilà. Ah, Higgins, c'est un personnage, vous savez... mi-réel, mi-mythique. Donc, je l'aime beaucoup parce que il vit à la campagne, il cultive son jardin, on pourrait dire, tout est tranquille. Puis c'est un homme qui a ses valeurs. Voilà, la rectitude, l'amitié, le goût de la vérité. Donc, il a eu un grand problème avec sa hiérarchie, parce que on ne fait pas faire quelque chose à Higgins qu'il ne veut pas faire, et donc il préfère la rectitude à autre chose. Et puis évidemment, comme on dit, il est le meilleur né du yard, parce que vous savez, il travaille avec un carnet, un crayon, la réflexion et l'ordre, la méthode et l'intuition. Voilà. C'est vraiment le policier à l'ancienne. Et moi, je discutais avec un un grand flic de la police scientifique qui m'expliquait qu'il y avait quand même encore 30% d'assassinats non résolus. Oui, malgré. Et oui, parce que ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les assassins, ils connaissent aussi les méthodes modernes et scientifiques, et ils ne laissent pas de traces. Et alors, quand ça va vraiment très mal et qu'on ne comprend plus rien et qu'on est au bord d'une affaire d'État, à qui fait-on appel ? À Higgins.
À Higgins.
Alors, voilà, il faut encore le convaincre de sortir de sa tranquillité.
De sa campagne, voilà.
Bon, on y arrive pour diverses raisons. Et le voilà parti sur le sentier du crime. Et puis alors, j'essaye à chaque fois. Alors bon, je crois que le personnage est quand même relativement attachant.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il est attachant. On sourit aussi parfois. Hein. On sourit,
On sourit. Oui, oui. Mes lecteurs m'écrivent beaucoup sur l'humour qu'il y a dans ces livres, mais tant mieux, parce que on regarde le monde avec les yeux de Higgins. Je pense que le lecteur s'identifie à lui. Et puis j'essaye dans chaque enquête, nous sommes maintenant à la 31e.
Hein, eh oui. Moi, je les ai tous. Je les ai tous.
et à chaque fois, j'essaie d'aborder un thème très, très contemporain et très. Et qui peut, je crois, intéresser tout le monde. Et là, le marchand de sable, alors c'est. Évidemment, c'est quelque chose qu'on avait de. Nous, maintenant, les gens d'un certain âge, nous avions dans notre enfance avant de s'endormir.
Oui, Nicolas, Nounours et Paprenel. Voilà.
Voilà. Et alors, le marchand de sable est passé. Bon, ça veut dire qu'on s'endormait. Mais alors là, le marchand de sable, il n'est pas très gentil.
Ouais. On ne va pas trop en dire, hein, parce que c'est une enquête policière. Voilà. Donc, on ne va pas trop révéler de choses. Hein. Voilà.
Voilà. Enfin, disons que le thème, je crois que peut-être que les gens ne le savent pas, mais dans les deux ressources majeures de la planète qui sont en grand danger, la première, c'est l'eau.
Oui.
Bon, ça, tout le monde le sait que l'eau, beaucoup de gens ne boivent pas d'eau potable, par exemple, et puis l'eau va finir par manquer, enfin, c'est très grave. Oui. Et la deuxième ressource qui est en train de manquer, et c'est très grave, c'est le sable.
Le sable.
Alors, voilà. Alors, on va vous répondre, ah oui, mais il y a les déserts. Ah, selon le problème, c'est que le sable des déserts ne peut pas être utilisé, vu sa texture, dans la construction. Donc, on ne peut pas édifier des immeubles, on ne peut pas édifier des centrales atomiques, on ne peut pas édifier des buildings. Et donc, le sable devient très rare, et c'est pour ça que les plages dans le monde entier sont en train de disparaître parce que le sable des plages, lui, est bon pour la construction.
Oui.
Et comme il y a une croissance exponentielle de la démographie et des bâtiments, eh bien voilà, un très grave problème. Bon, je ne vous en dis pas plus, mais
Il
va se trouver mêlé
à
une difficile histoire.
Tout à fait, tout à fait. Eh bien voilà, nous avons fait le tour de votre actualité riche. Je vais en rappeler les thèmes que nous avons abordés. Donc Pharaon aux éditions XO sur Thoutmôsis III. Les femmes qui ont fait l'Égypte, toujours chez XO. Un formidable livre sur les femmes, très intéressant. Vraiment, je plaisante, mais c'est très très bien. Et nous retrouvons ce cher monsieur Higgins embarqué dans une affaire de marchand de sable un petit peu nébuleuse et fort intéressante. Ça a été un vrai plaisir de nouveau d'être avec vous, de parler avec vous. Alors rapidement, vos prochains projets, on vous retrouve dans quelques mois, Christian Jacques ?
Eh bien écoutez, oui, on va se retrouver pour un prochain Higgins bientôt.
Parfait.
Donc ça va être, je dirais que c'est presque un petit peu l'immédiat qui va arriver.
Bon.
Cette guide cela va être aussi assez effrayant puisque il va s'intituler Jack l'Éventreur, le retour.
Oula. Ouais, alors de quoi te faire des cauchemars. Bon, et eh ben écoutez.
Voilà.
Bon.
Et puis il y a bien sûr bientôt un nouveau. Enfin. Je suis en train de préparer un nouveau roman, l'idée d'un nouveau roman sur l'Égypte. Et puis, un peu de travail scientifique aussi, avec un essai.
Oui, voilà. Ça, je sais que vous êtes friand de ça et vous êtes toujours très bavard sur ça et c'est toujours très, très intéressant. Et puis, vos remarques et parfois vos colères, en tout cas, vos gronderies, dirais-je. Voilà, mais on les aime bien. En tout cas, je vous remercie infiniment, c'était formidable. Pharaon, les femmes qui ont fait l'Égypte et Monsieur Higgins, le marchand de sable aux éditions XO. Je vous souhaite une bonne écriture, je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup pour cet entretien.
Merci encore pour
cette... À bientôt.
À bientôt, merci pour votre fidélité Christian Jacques, au revoir.
Au revoir.
Eh bien... Allô ? Eh bien voilà.
C'est un peu bizarre quand j'ai coupé le téléphone.
C'est pas grave. Nous retrouverons. J'espère que ces trois lectures vous raviront. En tout cas, je vous souhaite plein de belles aventures avec ces romans et ces écritures de Christian Jacques. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. En attendant, bonne lecture et à bientôt.